Chers frères et sœurs et chers amis, nous sommes à l'étude numéro 12 concernant l'importance de la prière. Et notre étude sera basée sur Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Chers amis, ce que je cherche surtout et toujours, c'est de prêcher les grandes vérités, c'est-à-dire la Bible telle qu'elle est, de la première à la dernière page, acceptant tout et ne rejetant rien. Je prêche donc la doctrine de l'importance de la prière. Tout d'abord, nous allons continuer de comprendre l'importance de la prière. Au sixième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, verset 18, nous lisons des paroles qui mettent en évidence l'extrême importance de la prière avec une force qui nous saisit et nous subjugue. Il est dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » L'enfant de Dieu, avisé qui s'arrête pour peser les mots et pour considérer les contextes, ne peut que s'écrier en lisant ces pages « Je dois prier, prier et prier. » Je dois mettre toute mon énergie et tout mon cœur à la prière. Quoi que je fasse, je dois prier. Certaines versions plus fortes encore, dans leur expression, disent « Je prie l'expiation », c'est-à-dire le salut par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je prêche que le Saint-Esprit est une personne, et je prêche la puissance de la prière. Oui, on peut dire que prier en tout temps dans l'Esprit Saint, par toutes sortes de prières et de supplications, et il faut veiller à cela avec toute persévérance et avec supplication au sujet de tous les saints. Remarquez qu'il est dit en tout temps et toutes sortes de prières. Ensuite, avec toute persévérance et pour tous les saints. Notez l'accumulation et la répétition des mots « prions », « prière », « supplication » et « persévérance ». Pesez enfin la force de l'expression « veillons » à cela, il faut veiller à cela, ou plus exactement, sans vous endormir. L'apôtre Paul connaissait la paresse naturelle de l'homme, spécialement dans le domaine de la prière. Il est très rare que nous prions sans relâche jusqu'à l'exaucement. Que de fois il arrive qu'une église ou un individu parvienne dans la prière jusqu'aux abords immédiats d'une grande bénédiction et, à ce moment précis, laissant aller, tombe dans l'assouplissement et abandonne carrément le combat. Je voudrais que ces mots, sans vous endormir, que le verset tout entier puisse brûler au-dedans de nos cœurs. Mais pourquoi donc cette prière constante, persévérante, éveillée et victorieuse est-elle si nécessaire? Voyons un peu cela. Premièrement, avant tout, parce que le diable existe. En effet, il est rusé, puissant, il ne s'accorde aucun repos. Il est sans cesse en train de comploter contre l'enfant de Dieu pour le faire tomber. Et si l'enfant de Dieu se relâche dans la prière, le diable réussira à le prendre au piège. C'est la pensée même exprimée par le contexte. Nous lisons au verset 12 d'Éphésiens chapitre 6, « Parce que ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs universels des ténèbres de ce siècle et contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Et puis, au verset 13, il est dit « C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et, après avoir tout accompli, tenir ferme. » Et suit alors une description des différentes parties de l'armure du chrétien que nous devons revêtir si nous voulons tenir bon contre le diable et ses puissants artifices. Et enfin, l'apôtre Paul couronne son exposé en disant, au verset 18, que à tout le reste, nous devons ajouter la prière constante, une prière persévérante, infatigable et éveillée, pas endormie, prière dans l'Esprit Saint, sans laquelle tout le reste est vain. Deuxièmement, nous avons une seconde raison pour prier de cette manière constante. Constante, persévérante, éveillée et victorieuse, et que la prière est le moyen que Dieu nous a préparé pour obtenir toutes choses et que la cause secrète de toute lacune dans notre expérience, notre vie et notre travail se trouve dans la négligence de la prière. Jacques, l'apôtre, il met la chose vigoureusement en évidence au chapitre 4 et au verset 2 de son épître. « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Et ces paroles nous révèlent la vraie cause de la pauvreté et de l'impuissance de la plupart des chrétiens, c'est-à-dire la négligence de la prière. De nombreux enfants de Dieu se demandent « Pourquoi donc fais-je si peu de progrès dans ma vie spirituelle ?» Et Dieu répond: la négligence de la prière, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà la négligence de la prière. Beaucoup de serviteurs de Dieu se demandent « Pourquoi donc mon labeur porte-t-il si peu de fruits ?» Et à nouveau, Dieu répond « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Pourquoi donc se demandent les assemblées, les églises et leurs conducteurs, Église de Christ, gagnent-elles, cette Église, si peu de terrain sur l'incrédulité, l'erreur, le péché et la mondanité? C'est là le problème. Une fois de plus, nous entendons Dieu répondre « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Troisièmement, une troisième raison pour prier de cette manière constante, persévérante, éveillée et victorieuse est que les apôtres établis par Dieu pour servir de modèle aux chrétiens considéraient la prière comme l'affaire la plus importante de leur vie. Je répète, comme l'affaire la plus importante de leur vie. Oui, tous les hommes de Dieu, puissants en dehors, on peut dire en dehors même de ceux dont nous parle la Bible, des hommes puissants que relatent les Saintes Écritures, ont été des hommes de prière, des hommes et des femmes de prière. Ils ont différé les uns des autres en bien des choses, c'est vrai. Mais, voyez-vous, sur ce point-là, ils se sont tous ressemblés. Quatrièmement, mais il est une raison encore plus importante à cette prière constante, persévérante, éveillée et victorieuse, c'est que la prière a occupé une place de tout premier plan en, et on peut dire, et a joué un rôle capital dans la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions jamais cela. Cinquièmement, il est à la prière constante, persévérante, éveillée et victorieuse, une autre raison qui semble plus puissante encore que la précédente. La voici. C'est la prière et la partie la plus importante du ministère actuel de notre Seigneur ressuscité. Voyez-vous, le ministère de Christ ne s'est pas terminé à sa mort. Là s'acheva seulement son œuvre expiatoire, mais lorsqu'il ressuscita et qu'il fut élevé à la droite du Père, il avait entrepris à la place une autre œuvre tout aussi importante pour nous, c'est son œuvre d'expiation. Et cette œuvre ne peut être séparée de son œuvre d'expiation, elle repose sur celle-ci comme sur son fondement même, mais elle n'en est pas moins nécessaire à l'accomplissement de notre salut. Nous voyons que c'est cette grande œuvre par laquelle le Seigneur amène notre salut à son achèvement. Voyez-vous, dans Hébreux, au chapitre 7, verset 25, il est dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Ce verset nous dit que Jésus-Christ est capable de nous sauver parfaitement, ce qui ne signifie pas seulement qu'il peut nous sauver de l'extrême perdition, mais jusqu'à l'extrême perfection, jusqu'à l'entière plénitude du salut, jusqu'à l'absolue sainteté, parce qu'il n'est pas mort seulement, mais qu'il est aussi toujours vivant. Ce verset nous dit encore pour quel dessein il vit maintenant, et c'est d'intercéder. Il intercède pour nous. C'est pour nous, donc, qu'il prie, et la prière est sa principale activité durant cette ère, et c'est par ses prières qu'il nous sauve chaque jour. Et autrement, nous serions pratiquement tous perdus. La même pensée se trouve, je crois, dans le remarquable et triomphant défi de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 34, qui accusera les élus de Dieu, est-il dit. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera, mais c'est Christ qui est mort. Bien plus, il n'est pas seulement mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour toi, mon cher ami, pour nous tous. Romains chapitre 8, verset 34. Oui, en effet, c'est sérieux. Si donc nous voulons être unis à Jésus-Christ dans son œuvre actuelle, eh bien, il nous faut passer beaucoup de temps en prière, nous consacrer à la prière sérieuse, à la prière constante et persévérante, éveillée et non endormie, pour être victorieux. Rien ne m'a fait sentir aussi vivement combien il est important de prier en tout temps et d'être constamment en prière. Jésus-Christ demande ou a demandé au Père, quels que puissent être ses autres desseins à mon égard, et de faire de moi en tout cas un intercesseur, un homme qui sache prier et qui consacre beaucoup de temps à la prière. C'est ce que Jésus-Christ demande au Père pour nous, pour toi, cher ami, et pour moi. Et ce ministère de l'intercession, c'est un glorieux et puissant ministère, et tous nous pouvons y avoir part. L'homme ou la femme, retenu par la maladie loin des cultes publics, peuvent y avoir part également. La mère de famille affairée, la femme qui doit même gagner sa vie, peut y avoir part et comment elle peut faire monter ses prières pour les saints, pour son pasteur et pour les perdus ainsi que pour les missions lointaines. L'homme d'affaires, qui est souvent surmené, peut aussi y avoir part et prier tout en se hâtant d'une obligation à l'autre. Mais il va sans dire que si nous voulons conserver cet esprit de constante prière, nous devons prendre le temps et le prendre largement de nous enfermer seuls avec Dieu dans le secret pour ne rien faire d'autre que prier. Sixièmement, une sixième raison pour prier d'une manière constante, persévérante, éveillée et non endormie, et surtout victorieuse, et que la prière est le moyen établi par Dieu pour nous permettre d'obtenir miséricorde et de trouver grâce d'être secourus dans nos besoins. Hébreux, chapitre 4, verset 16, est l'un des versets les plus simples et les plus doux de la Bible. Là, il est dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, ces paroles nous montrent clairement que Dieu a établi un moyen par lequel nous pouvons rechercher et obtenir sa miséricorde. Alléluia. Et ce moyen, c'est de nous approcher avec audace, avec confiance, avec hardiesse d'expression, du trône de la grâce, du lieu très saint, de la présence de Dieu, où notre compatissant souverain sacrificateur, qui est Jésus-Christ, est entré pour nous, pour toi comme pour moi. Hébreux, chapitre 4, versets 14 et 15. Oui, c'est de miséricorde que nous avons vraiment besoin. C'est la grâce qu'il nous faut obtenir. Sinon, toute notre vie et tous nos efforts aboutiront à une faillite, je pense, peut-être même totale. Or, la prière, voyez-vous, prière est le moyen d'obtenir l'un et l'autre. Il y a à notre disposition une infinie richesse de grâce que nous pouvons expérimentalement nous approprier par la prière. Oh oui, si seulement nous nous représentions la plénitude de grâce divine mise en service, plutôt en réserve, pour que nous la demandions, pourquoi pas la demander? Sa hauteur, sa profondeur, sa largeur et sa longueur, oui, je suis sûr, croyez-moi, que nous passerions beaucoup plus de temps en prière, car la mesure de grâce que nous nous approprions, elle est à la mesure, je pense, j'en suis même certain, elle est à la mesure de nos prières. Qui donc ne sent pas qu'il a besoin de plus de grâce? Eh bien, demandez-la donc. Soyez constant et persévérant. Soyez, on peut dire, important, pourquoi pas, et ne vous fatiguez pas de demander. Dieu prend plaisir à nous voir mendier sa grâce avec effronterie, carrément. car cela montre notre foi en lui. Or la foi le réjouit puissamment, et c'est à cause de notre importunité qu'il se lèvera, et il nous donnera tout ce dont nous avons besoin, selon Saint Luc chapitre 11, verset 8. Nous ne connaissons pour la plupart que de petits ruisseaux de miséricorde et de grâce, tandis que nous pourrions en connaître des fleuves débordants, est-il dit. Septièmement, la septième raison en faveur de la prière constante et persévérante, éveillée et victorieuse, c'est que la prière au nom de Jésus-Christ est le moyen que Jésus-Christ lui-même a établi pour que ses disciples obtiennent la plénitude de la joie. Donc, huitième raison pour prier d'une manière constante, persévérante, éveillée et non endormie, pour être victorieux, est que dans tous les soucis, les angoisses et les besoins de l'existence, la prière avec action de grâce est le moyen que Dieu a établi pour que nous obtenions la délivrance de toute anxiété et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oui, ne vous inquiétez de rien, est-il dit par l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez de rien, dit-il, je crois, dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Et il dit, « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins, tous vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, versets 6 et 7. Pour beaucoup, ceci semble à première vue la description d'une vie belle, certes, mais hors de la portée du commun des mortels. Or, il n'en est rien. Le verset nous dit comment cette vie peut être réalisée par tout enfant de Dieu, par toi, ma chère sœur. Par toi, mon cher frère, ne vous inquiétez de rien, ou encore en aucune chose n'éprouvez de l'anxiété. La dernière partie du verset nous dit comment, et c'est très simple, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quoi de plus clair et de plus simple que cela ? Vous n'avez qu'à vous tenir constamment en contact avec Dieu, et sitôt qu'une peine ou une contrariété grande ou petite se présente, lui en parler sans jamais oublier de lui rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait pour vous. Quel sera le résultat ? Ah ! Eh bien, ce sera la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, c'est merveilleux et c'est aussi simple que merveilleux. Car beaucoup en font l'expérience. Dieu soit béni pour cela. Ne connaissez-vous personne qui soit toujours serein ? Peut-être s'agit-il d'un homme très violent de son naturel ? Ça peut arriver. Mais attention, les difficultés, les conflits, les revers, les privations peuvent tourbillonner autour de lui. Et tout à coup, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera son cœur et ses pensées dans le Christ Jésus. Nous connaissons tous de telles personnes, comment s'y prennent-ils ? C'est ce que nous demandons souvent. Eh bien, ces personnes, elles prient Voilà le problème, ou voilà plutôt la solution, car ceux qui connaissent la paix profonde de Dieu, l'insondable paix qui surpasse toute intelligence, sont toujours des hommes et des femmes qui prient beaucoup. Quelques-uns d'entre nous permettent à une activité fiévreuse de refouler la prière hors de leur vie. Et quelle perte de temps, d'énergie et de force nerveuse entraîne cette perpétuelle agitation ? Une nuit de prière nous épargnera beaucoup, beaucoup de nuits d'insomnie. Le temps passé en prière n'est pas du tout du temps perdu, mais c'est du temps qui est placé à gros intérêt. Neuvièmement, une neuvième raison pour prier d'une manière constante, persévérante, éveillée et victorieuse est que la prière est la méthode établie par Dieu lui-même, pour que nous obtenions le Saint-Esprit. Sur ce point, la Bible est très claire. Jésus-Christ nous dit dans Saint Luc chapitre 11, et je ne sais pas si c'est le verset 13, « Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent ?» Saint Luc chapitre 11, et en effet c'est bien le verset 13. On entend dire de nos jours, et par d'excellentes personnes entre autres, il ne faut pas prier pour obtenir le Saint-Esprit. Surtout ne faites pas cela, car vous l'avez automatiquement reçu quand vous avez été sauvé. Mais que font-ils donc de la claire déclaration de Jésus-Christ ? À combien plus forte raison, dit-il, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Il y a quelques années, un serviteur de Dieu avait annoncé un message sur le baptême du Saint-Esprit et un frère vint à lui et lui dit d'un ton très, très sûr de lui et pénétré, « Sachez, pasteur, et ayez soin de dire qu'il ne faut jamais prier pour obtenir le Saint-Esprit. » Ce serviteur a répondu, « Oh, rassurez-vous, je ne leur dirai certainement pas cela, car Jésus-Christ déclare, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?»« Oh oui, répliqua cet homme, mais attention !» Ça, c'était avant la Pentecôte. Et acte 4, verset 31, est-ce avant ou après la Pentecôte ? Après, bien sûr. Eh bien, continuez de lire. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et acte 8, chapitre 8, verset 15. Était-ce avant la Pentecôte ou après ? Oui, bien sûr, après. Alors lisez encore, s'il vous plaît. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Il ne répondit plus rien. Que aurait-il pu répondre ? Car il est clair comme le jour dans la parole de Dieu qu'avant la Pentecôte et après le premier baptême, comme les expériences ultérieures de plénitude du Saint-Esprit, furent accordées en réponse à la prière qui les réclamait d'une façon précise. l'expérience l'enseigne également. Sans doute, beaucoup ont reçu le Saint-Esprit au moment même où ils se sont livrés à Dieu, avant même d'avoir eu le temps de prier pour cela. Mais combien y a-t-il qui savent que leur première expérience précise du baptême du Saint-Esprit a eu lieu tandis qu'ils étaient à genoux ou prosternés devant Dieu, seuls ou en compagnie d'autres frères et sœurs et qui, maintes et maintes fois depuis lors, ont été remplis du Saint-Esprit tandis qu'ils priaient. Ce serviteur a dit ensuite: je sais cela, et ceci d'une manière aussi certaine que je sais que ma soif a été étanchée lorsque j'ai bu de l'eau. Car un matin de bonne heure, dans la salle de prière de l'église de l'avenue de Chicago, où plusieurs centaines de personnes avaient prié ensemble plusieurs heures durant, le Saint-Esprit descendit d'une manière si évidente et ce lieu fut si rempli de sa présence que personne n'a pu plus parler. Ils n'ont plus pu parler ni prier, mais qu'on n'entendait plus que des sanglots de joie. Voyez-vous cela, chers amis, si seulement nous pourrions passer plus de temps en prière, on verrait davantage dans notre travail la plénitude de la puissance de l'Esprit-Saint, mais aujourd'hui, plus personne n'a le temps, avec tous les gadgets de l'Internet. Oh là 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 là, il y en a tous les jours au moins 5 à 7 nouveaux engins qui sont proposés aux personnes, même pour bientôt, même pour des enfants. Alors, plus personne n'a le temps. Alors ça ne peut pas aller bien, certainement pas. Bien des hommes qui autrefois ont travaillé manifestement dans la puissance du Saint-Esprit remplissent aujourd'hui l'air de leurs exclamations creuses et l'agitent de leurs vaines gesticulations parce qu'ils ont laissé refouler la prière hors de leur vie. Je ne dis pas qu'ils sont tous fautifs, c'est les circonstances, le diable a bien fait les choses, et croyez-moi, il va s'arranger à les faire encore mieux. Si nous voulons continuer dans la puissance de l'Esprit-Saint, il nous faut passer beaucoup plus de temps sur nos genoux devant Dieu, à la place avec tous nos gadgets inimaginables qui nous sont présentés tous les jours. Dixièmement, une dixième raison pour prier d'une manière constante, persévérante, éveillée et victorieuse, c'est que la prière est le moyen établi par Christ pour que nos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès du manger et du boire et les soucis de la vie et que ainsi le jour du retour de Christ ne vienne pas sur nous à l'improviste, comme un filet. Un des passages les plus intéressants et les plus solennels de la Bible concernant la prière suit cette ligne de pensée, et je crois qu'elle se trouve dans Saint-Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Il est dit: « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car, attention, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Saint Luc chapitre 21, versets 34 et 36. D'après ce passage, il n'y a qu'un seul moyen par lequel nous puissions être prêts pour la venue du Seigneur Jésus-Christ quand il apparaîtra, c'est évidemment par la prière. Le retour de Jésus-Christ est un sujet qui, de nos jours, éveille beaucoup d'intérêt et provoque de nombreuses discussions. Mais c'est une chose, oui, c'est une chose que de s'intéresser au retour du Seigneur et d'en parler à droite à gauche, et c'est encore une autre chose que d'y être préparé nous-mêmes, toi-même et moi-même. L'atmosphère dans laquelle nous vivons tend constamment à nous rendre impropres pour la venue de Christ. Toutes ces circonstances autour de nous nous rendent impropres pour la venue de Christ. Le monde cherche à nous attirer par ses jouissances et ses préoccupations. Il n'y a qu'un seul moyen par lequel nous puissions nous élever triomphants au-dessus de ces choses-là, c'est de veiller constamment dans la prière, c'est de prier sans s'endormir surtout. Veiller et en tout temps sont donc les mêmes expressions très fortes que nous avons vues, rappelez-vous, dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Celui qui n'accorde que peu de temps à la prière, qui ne s'y adonne pas d'une manière inébranlable et constante, ne sera pas prêt quand le Seigneur viendra. Mais nous pouvons être prêts en priant régulièrement chaque jour. Et onzièmement, il y a encore une raison en faveur de la prière constante, persévérante, éveillée et victorieuse. Et c'est une raison qui est puissante. Oui, puissante. C'est ce que la prière peut vraiment accomplir. Aussi, voyez-vous, après tout ce qui a déjà été dit sur ce sujet, il resterait évidemment beaucoup à dire encore. N'oublions pas que la prière favorise notre croissance spirituelle et ceci, comme rien d'autre, ne peut le faire. Ah oui, si ce n'est, bien entendu, l'étude biblique et la prière. Du reste, la prière véritable et l'étude biblique véritable marchent, il me semble, main dans la main. Et c'est par la prière que mon péché, même le plus caché, est amené à la lumière. Lorsque prosterné devant Dieu, je m'écrie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis dans une mauvaise voie. » Psaume, chapitre 139. Versets 23 et 24. Oui, Dieu lance les rayons de sa pénétrante lumière jusqu'au plus profond, repli de mon cœur, et des péchés insoupçonnés sont mis en évidence. Donc, en réponse à la prière, Dieu me lave complètement de mon iniquité et il me purifie de mes péchés. Psaume 51, verset 4. Donc, en réponse à la prière, mes yeux sont ouverts pour que je contemple les merveilles de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 18. En réponse à la prière, j'obtiens la sagesse pour discerner les voies de Dieu. M'est-il dit dans Jacques chapitre 1 verset 5 et la force pour y marcher se trouve dans la prière. Quand dans la prière je rencontre l'Éternel, et contemple sa face, je suis transformé à son image, de gloire en gloire, nous est-il dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Oui, chaque jour, d'une véritable vie de prière me rend plus semblable à mon glorieux Seigneur. John Weller, John Weller, le genre de John Knox. Il était un homme particulier. Tous ont dit que c'était un homme de prière et des plus fidèles que le monde ait jamais vu. Or, un vieillard disait de lui après sa mort qu'il avait été en quelque sorte un type de Jésus-Christ. Comment parvint-il à être si semblable à son maître bien-aimé? C'est tout simplement sa vie de prière qui en fut la clé de tout ce mystère. La prière est une source de puissance pour notre travail également. Si nous désirons la puissance pour un travail quelconque auquel Dieu nous appelle, que ce soit la prédication, l'enseignement, la cure d'âme ou l'éducation de nos enfants, nous pouvons l'obtenir par la prière fervente. La maman d'un petit garçon qui était absolument incorrigible était si désespérée qu'elle s'écriait « Que faire avec lui ?» Avez-vous jamais essayé de prier, par exemple, la prière qui demande à son pasteur elle pensait bien l'avoir faite. Oui, elle avait demandé à son pasteur « Que faut-il faire ? Que faire ?» Et elle pensait d'avoir bien fait de demander tout cela à son pasteur, ce qui était juste. Or, le pasteur a très bien répondu. Il lui dit « Avez-vous fait de sa conversion de ce petit garçon ? Avez-vous fait de sa conversion et du changement de son caractère un véritable sujet de prière précis, très précis ? Et vous êtes-vous attendu à l'exaucement de votre prière ? » La réponse a été « Je n'ai pas été précis du tout dans tout cela, c'est vrai. » Aussi, une fois que le pasteur lui a bien expliqué les choses, elle commença ce jour même et aussitôt à prier. Et il y eut un changement marqué chez l'enfant. Il grandit et devint plus tard un chrétien. Gloire à Dieu. Chers amis, sachez que la prière est également efficace pour la conversion des âmes. La prière réussit souvent là, voyez-vous, où tout reste, semble-t-il, impossible, où tout semble même d'échouer carrément. Hein ? Combien inutile a été certains problèmes. Oui, et je peux dire combien inutilement une dame qui s'appelait Monique prodigua-t-elle ses efforts et ses exhortations auprès de son fils. Mais ses prières prévalurent auprès de Dieu, et le jeune homme dissolu totalement, hein, ils ont prévalu tout de même quelque chose de merveilleux à la longue par la persistance de des prières de cette Monique. Car plus tard, un homme célèbre devint Saint Augustin, l'influent homme de Dieu, et grâce à la prière des ennemis acharnés de l'Évangile, ces ennemis-là sont devenus ses plus vaillants défenseurs après une série de prières solennelles et intenses. Et les pires scélérats sont devenus de vrais enfants de Dieu. Et les femmes les plus dégradées sont devenues les saintes les plus pures. Ça, c'est merveilleux. Oui, le pouvoir de la prière pour descendre, chercher les hommes et les femmes les plus bas tombés, hein, aujourd'hui on pourrait nommer la Reeperbahn de Hambourg, ou plus profond de l'abîme, on peut bien le dire, et les élever plus haut que les plus hautes cimes, jusqu'à la communion et la ressemblance avec Dieu. Et c'est vraiment merveilleux. Comme nous savons mal apprécier cette arme extraordinaire qui est la prière. Comme nous savons mal faire cela. Chers amis, pour terminer, un peu plus tôt que d'habitude, j'aimerais juste encore dire ceci. La prière est également une source de bénédiction pour l'Église. Et comment ? L'histoire de l'Église est pleine de graves difficultés qu'il a fallu vaincre. Le diable haït l'Église et comment ? Et il cherche par tous les moyens à enrayer ses progrès, tantôt par les fausses doctrines, tantôt par les divisions, tantôt par le relâchement dans nos mœurs. Mais la prière véritable, la vraie prière, elle va changer absolument tout. Oui, elle peut frayer un chemin uni à travers toutes ces choses. La prière déracine les hérésies, elle dissipe les malentendus, elle balaye les jalousies et les animosités, elle supprime l'immoralité et ramène comme une marée le flot vivifiant de la grâce divine. L'histoire le montre abondamment, aux heures les plus sinistres, aux sinistres augures, il faut le dire, quand le cas de l'Église locale ou universelle semblait désespéré, eh bien, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui avaient la foi profonde, se sont réunis pour crier à Dieu, et la réponse est venue. Il en fut ainsi au temps de Knox, de Luther, il en fut ainsi au temps de Wesley et de Whitefield, il en fut aussi au temps d'Edwards et de Brainerd, il en fut ainsi au temps de Finney, il en fut ainsi au temps des grands réveils. Oui, en effet, le monde, la chair et le diable mènent un grand tapage, plus que jamais. Nous vivons une sombre époque, et comment ? Mais maintenant, il est temps que l'Éternel agisse, car ils ont annulé ta loi, nous est-il dit dans le psaume 119, verset 126. Et le Dieu justement, il s'apprête à agir. Il écoute maintenant si la voix de la prière va s'élever vers lui. Mais s'élèvera-t-elle, mes chers amis? Ça, c'est une autre question. Il semble que le monde chrétien prie de moins en moins. Car comment pouvez-vous comprendre qu'il y a maintenant des églises qui sont à vendre? Posons-nous la question. C'est certainement pas parce qu'on prie trop. Ça m'étonnerait. Voyez-vous? Non, non, non. Nous sommes fautifs et pas Dieu. C'est nous qui sommes fautifs que la pollution, elle devient un problème crucial. C'est nous qui sommes fautifs que bientôt il n'y a plus de poissons dans les mers, que la mer devient même empoisonnée. C'est nous qui sommes fautifs que l'air va bientôt être irrespirable, excusez-moi. Oui, que le cancer augmente d'une façon triple, que les maladies du cœur et toutes les autres maladies augmentent de fois 10 bientôt. Ça, c'est nous qui sommes fautifs. C'est nous qui avons détruit toute la terre. C'est nous qui abattons les arbres pour faire des journaux, des tas de réclames qui remplissent les boîtes aux lettres tellement que par jour, pour une seule personne, elle peut bientôt remplir un panier de papier à jeter. Non, c'est nous qui sommes fautifs. Et il faut vraiment que le peuple de Dieu puisse revenir à la prière. Mais, le fait-il? Il semble pas trop. Nous terminerons maintenant par une simple prière et je voudrais simplement que la plupart d'entre nous puissent prier davantage. De simples prières, que ce soit à votre travail, silencieusement dans votre cœur, ou que ce soit dans la cuisine ou le soir au salon, en éteignant un moment la télévision, ce ne sera pas un mal. Autrement, ça deviendra impossible, évidemment. Prions maintenant. C'est maintenant l'heure, ô Esprit Saint, un avec le Père et le Fils, daigne en nous venir sans tarder et te répandre dans nos cœurs. Bouche, langue, âme, esprit, chantez la louange avec énergie. Amour, brûle-nous de tes flammes, de tes feux embrase mes frères et sœurs. Entends-nous, toi, Père céleste, toi, Fils unique, égal au Père, et toi, Saint-Esprit, le Paraclet qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, merci. Merci surtout pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide et que l'Esprit Saint puisse vous convaincre de prier davantage. Je le demande solennellement avec nous, avec vous. Au revoir et à bientôt. Merci pour l'intérêt que vous continuez de porter à ces études. À bientôt à nouveau. Au revoir.